Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'absence d'épisode mardi dernier. Les vacances scolaires, la vie, etc., etc. auraient eu raison de moi et de mon agenda. La bonne nouvelle, c'est que pour vous remercier d'avoir si gentiment patienté, l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas divisé en deux parties comme initialement prévu. Il vous sera délivré dans son intégralité et croyez-moi, ça aura valu la peine de patienter. J'en profite pour vous annoncer que les deux prochains épisodes seront des rediffusions d'une conversation dédiée au mariage. C'est quand même le cœur du podcast et ça me semblait important de le mettre à l'honneur en cette période estivale. Sans plus attendre, place à l'épisode.
Les gens pieux peuvent connaître un non-épanouissement dans leur couple. Zayd, c'est un homme pieux. Il fait partie des plus hauts degrés de la piété. Zaynab, qui fait partie de Oum el-Mouminin, les mères des croyants, elle fait partie des plus hauts degrés de la piété. Malgré ça, ils ont connu le divorce. En dehors du sang du prophète, d'accord, en dehors de son propre sang, les deux personnes qui lui sont le plus proches intimement, c'est Baraka, qui a été sa mère adoptive, et Zayd ibn Haritha, qui a été son fils adoptif. Tu sais, la paix intérieure, l'apaisement, la sérénité, elle passe toujours par des concessions.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. L'histoire, ou plutôt les histoires, que vous vous apprêtez à écouter, ont bien des enseignements à nous apporter. Dans ce nouvel épisode consacré à nos illustres prédécesseurs, Farid, de l'Institut musulman de Moselle, nous fait l'immense joie de venir nous conter le récit de Zayd ibn Haritha, qu'Allah l'agrée, et de ses deux unions. L'une avec Zaynab ibn Jahsh, l'autre avec Baraka, appelée communément Aymen, qu'Allah les agrée toutes les deux. Que ce soit le profil de la personne épousée, la dynamique du ménage ou encore l'issue du mariage, rien ne saurait plus les opposer. Pourtant, la sagesse et la puissance d'Allah transpercent de façon manifeste ces deux histoires notoires. Dans la première partie de cet épisode, Farid revient tout d'abord sur l'union la plus connue des deux, celle de Zayd et de Zaynab. Qui sont-ils? Qui les a mariés? Comment et pourquoi celui que l'on nommait le bien-aimé a-t-il pu finir par divorcer? Farid profite de l'occasion pour nous faire un rappel puissant sur le divorce, une grande épreuve qui peut, voire qui doit, devenir une force. Puis, vous entendrez l'histoire de Zayd et d'Oum Aymen, une femme que si peu d'hommes ont souhaité épouser, même s'ils auraient eu tant à y gagner. Enfin, avec Farid, nous appuyons sur ces histoires inspirantes pour ouvrir grand la discussion sur des thèmes riches tels que l'importance de se connaître soi durant son célibat, la définition de l'amour selon les enseignements d'Allah, et bien d'autres sujets captivants, croyez-moi. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon cher frère Farid, comment vas-tu?
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Madina, je vais très bien depuis la dernière fois et c'est un grand plaisir de te retrouver.
Alhamdoulilah, le plaisir est plus que partagé par moi, évidemment, mais je pense aussi qu'il le sera par les nombreux éditeurs qui auront grande joie de te retrouver, parce que je te l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais je le dis là à micro ouvert, les épisodes qu'on a fait ensemble au sujet de notre merveilleux prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Khadija radiallahu anha sont les plus écoutés. C'est pas parmi les plus écoutés, c'est les plus écoutés. Donc je pense que ça montre déjà l'intérêt de nos frères et sœurs pour et j'ose dire l'amour de nos frères et sœurs et de nous-mêmes quant à notre prophète d'amour sallallahu alayhi wa sallam. Et puis je pense que ça montre aussi l'intérêt qu'ils ont pour toi et je pense la joie de te retrouver maintenant, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Aujourd'hui, toi et moi, Farid, on va aborder deux histoires et c'est C'est très intéressant parce que lorsqu'on a repris contact pour un nouvel enregistrement, moi, je t'ai proposé d'aborder deux histoires différentes, une avec Zayd et notamment son union avec Zeynep, qu'elle a leur face miséricorde, et une avec Julaybib et son épouse. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Julaybib, je pense que j'en ferai un épisode parce que ça mérite vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'y attache et qu'on s'y attarde. Mais toi, mon cher Farid, tu m'as dit non, on va rester sur Zayd et on va plutôt parler des deux unions qu'il a eues. Est-ce que tu peux, avant de rentrer un peu dans le détail de ces deux unions-là, nous expliquer pourquoi c'était important pour toi de s'arrêter sur ce merveilleux compagnon avant toute chose?
Alors déjà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alors pourquoi j'ai choisi Zayd? Parce que déjà, il a une place particulière, on va le voir, auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une place particulière dans son cœur. Il fait partie des individus pour lesquels le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a le plus d'affection parmi tous les êtres humains. Donc déjà, c'est un personnage très spécial concernant la relation avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi parce que Zayd, tu sais, il a vécu dans ses mariages deux expériences totalement différentes. Un mariage qui s'est avéré très difficile et un mariage qui a été un mariage d'une totale harmonie. Et ça montre que un individu peut connaître des mauvais moments dans son mariage et il peut très bien par la suite retrouver une harmonie auprès de quelqu'un d'autre. Ou alors, ça peut concerner même un seul et même individu, chacun d'entre nous, dans notre couple. Tout au long de notre vie, on peut passer par ces deux états que va connaître Zayd ibn Haritha. Et aussi parce que Zayd, ne l'oublions pas, je vais déjà avancer une chose qui va nous servir de fil conducteur, c'est que Zayd, il a été élevé directement, éduqué directement par le prophète, sans salam, et par Khadija. Il a été élevé par le meilleur couple qui existe dans tout l'univers. Eh bien, lui qui a été élevé par le meilleur couple, il a connu ce qu'on appelle le divorce, qui très souvent est considéré par des personnes comme un échec, alors que pas du tout. Le divorce n'est pas un échec. Le divorce, c'est une expérience qui va permettre de ressortir grandi avec plus de sagesse et plus de connaissances sur soi et sur l'autre. Donc voilà pourquoi principalement j'ai choisi de me focaliser principalement sur ce noble compagnon Zayd ibn Haritha.
Mashallah, c'est un très beau teasing. Franchement, t'as déjà dit tellement de choses, mais je voudrais pas spoiler, mettre la charrue avant les bœufs, etc. Je pense qu'on va te laisser, on va vraiment te laisser la parole pour cet épisode. Et j'interviendrai peut-être plus tard, mais là, je pense qu'on a tous hâte. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'entendre parler de ces deux histoires-là. Mais je crois que avant de commencer par le mariage en soi, ça te semblait impératif et à juste titre qu'on s'arrête sur l'histoire d'abord de Zayd ibn Haritha. Donc je t'écoute.
Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que Zayd ibn Haritha, il a un vécu particulier. Il a une histoire, on peut même dire magnifique, merveilleuse. Hein, une histoire qu'on pourrait raconter aux enfants pour qu'ils s'émerveillent de comment Allah subhanahu wa ta'ala il agence les destinées. Zayd ibn Haritha, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur sa biographie, mais pour aller à l'essentiel, alors qu'il était un jeune garçon, hein, il fait partie d'une tribu arabe qui s'appelle les Qada'a, et c'est une tribu bédouine. Ben, quand il était petit, alors qu'il était sorti avec sa mère à un grand marché, il s'est fait kidnapper. Eh oui, il s'est fait kidnapper, ça existait déjà à l'époque, et il a été vendu comme esclave, alors qu'il était un tout jeune garçon. Donc imaginez-vous, hein, il a perdu sa famille, il a perdu sa tribu, il a perdu le lieu où il habitait, et il a été vendu comme esclave au grand marché, l'un des plus grands marchés qui existent à l'époque en Arabie, c'est le marché de Uqaz. C'est un marché qui se situe entre la ville de la Mecque et entre la ville de Taïf. Et c'est le plus grand marché qui existe dans la péninsule arabique. Quand il est sur le marché des esclaves, il va être acheté par un homme qui s'appelle Hakim ibn Hazam. Hakim ibn Hazam, c'est pas n'importe qui, c'est un notable parmi la tribu de Quraysh, la tribu la plus noble, la plus renommée chez les Arabes, hein, la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Hakim ibn Hazam, c'est pas n'importe qui, pourquoi? Parce qu'en plus d'être un homme de Quraysh, c'est l'oncle de Khadija, radiallahu anha. Et quand il va acheter le petit Zayd, hein, il achète le petit Zayd comme esclave, il va l'offrir à Khadija. Et Khadija, elle, elle va prendre le petit Zayd et elle va l'offrir à son mari, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je commence déjà avec des petites informations particulières. Alors, c'est pas, je vais pas attester ce que je dis d'une manière sûre, mais c'est plutôt une réflexion personnelle. Je pense que Khadija, radiallahu anha, elle a offert le petit Zayd à son mari Mohammed, parce qu'avec lui, elle n'a pas réussi à avoir de garçon. Elle a eu que des filles. Et elle se trouvait avancée dans l'âge. Elle ne pouvait plus lui donner d'autres enfants. Eh oui. Donc, elle lui a offert le petit Zayd, qui allait être un peu comme son garçon. Et on va le voir, effectivement, oui. Il va être son garçon. On va en parler par la suite. Donc, Khadija offre le petit Zayd à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed, notre prophète, alors il n'est pas encore prophète, hein. Ça s'est passé avant la prophétie, hein, des années avant la prophétie. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il recueille le petit Zayd. Et ce qui est fort, c'est que quand il va le recueillir, il va pas le recueillir en tant qu'esclave. Il va le recueillir comme son enfant. Il va en prendre soin avec toute la douceur, la miséricorde et la bonté qu'on lui connaît, notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le petit Zayd, il va grandir dans cette maison incroyable. La maisonnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où se fréquentent des personnages qui ont atteint les plus hauts niveaux. Au niveau de la foi, au niveau de la religion, au niveau de la morale. Bah, il va côtoyer Khadija radhiyallahu anha. Il va côtoyer les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab, Ruqaya, Kalthoum, Fatima. Mais il va aussi côtoyer Ali ibn Abi Talib, qui va venir rejoindre la maisonnée, puisque le prophète Hassan va le prendre en charge afin de soulager son oncle Abu Talib, qui avait des difficultés financières. Donc il va fréquenter tout ce beau monde, et il va même fréquenter une autre personne qui fait partie de la maisonnée, que beaucoup de gens méconnaissent très souvent, mais qui a son importance, une femme qui s'appelle Baraka. Et on reviendra d'ailleurs sur elle un peu plus tard.
On reviendra sur elle et on reviendra sur le fait qu'elle soit peu connue. Parce que ça m'importe aussi. On y reviendra.
Tout à fait. Avec grand plaisir. Et donc, le petit Zayd, il grandit dans cette maison-là. Donc, je vous laisse un peu imaginer l'éducation qu'il a eue. Une éducation portée par le prophète, portée par Khadija, avec tout la bienveillance, leur sagesse, la connaissance de l'être humain qu'ils avaient. Eh bien, il a été éduqué par ces personnes-là. Et donc, le petit Zayd, il va grandir dans cet environnement en côtoyant ces personnages exceptionnels. Alors, on va monter un petit peu plus vite dans la chronologie, on va avancer dans la chronologie et on arrive au moment de sa conversion. Il est maintenant un jeune homme d'environ 20 ans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va être investi de sa mission. Ça y est, il devient prophète. Il va, donc, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, inviter les gens de sa maisonnée à l'islam. Et bien sûr, Zayd, qui fait partie des gens de la maison, va embrasser l'islam. Et d'ailleurs, il fait partie des tout premiers musulmans. Il embrasse l'islam juste après Khadija, les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
et Ali. Oui.
Donc, il fait vraiment partie des tout premiers. Alors là, j'en profite, j'ouvre une petite parenthèse. Ça, c'est pour avoir un repère chronologique quand vous étudiez la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la vie des compagnons. Les historiens, les grands savants de l'islam historiens, donc c'était des savants érudits dans les sciences religieuses, mais en même temps dans ce qu'on appelle tarikh, l'histoire, ils ont mis un point de repère chronologique pour connaître les tout premiers musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont le plus grand mérite. Le point de repère principal, c'est ce qu'on appelle la maison d'Al-Arqam, que sûrement vous avez déjà entendu parler. C'est une maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans se réunissaient en cachette pour avoir des assises de foi, pour écouter du Coran, pour apprendre la religion. Cette maison-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dedans environ 3-4 ans après avoir reçu la première révélation. Tous ceux qui ont embrassé l'islam avant d'entrer dans la maison d'Al-Arqam sont considérés comme les pionniers, tels que Abu Bakr, Uthman, Sa'ad ibn Abi Waqas, Az-Zubayr, Talha, etc. Donc vraiment, c'est ce point de repère-là. Et Zayd ibn Haritha, il est rentré, il a embrassé l'islam avant de rentrer dans cette maison. Après, on pourrait même faire, vous savez, une chronologie encore plus pointilleuse. J'avais trouvé ça une fois, c'est que la première personne à avoir embrassé l'islam en dehors de la maisonnée du prophète, c'est Abu Bakr. C'est Abu Bakr. Le jour même où Abu Bakr a embrassé l'islam, il est parti faire la da'wah à deux hommes qui ont embrassé l'islam. Az-Zubayr et Uthman ibn Affan. Le lendemain, Abu Bakr, il a fait la da'wah à Sa'ad ibn Abi Waqqas qui va embrasser l'islam. C'est-à-dire, même là, il y a une différence. On voit que Uthman, il a embrassé l'islam avant Sa'ad. D'un jour. Mais ça joue beaucoup. Eh bien, dites-vous, Zayd ibn Haritha, il a embrassé l'islam avant Abu Bakr, en vérité. Puisqu'il fait partie de la maisonnée. Et ceux de la maisonnée ont embrassé l'islam avant ceux qui ne font pas partie de la maisonnée. Donc, vous comprenez que Zayd ibn Haritha, il fait partie vraiment des tout premiers musulmans. Un petit mot maintenant sur ses mérites, pour bien comprendre à qui on a affaire, parce que c'est du lourd. Donc on l'a dit, il est parmi les tout premiers à avoir embrassé l'islam. Il est le premier, personne ne l'a dépassé dans cela, il est le premier esclave libéré à avoir embrassé l'islam. Le premier esclave libéré à avoir embrassé l'islam, c'est lui. Parmi ses mérites, il a effectué l'égir à Médine. Parce que vous savez, dans la classification d'honorabilité des compagnons, ceux qui ont fait l'égir sont meilleurs que ceux qui ne l'ont pas fait. Quand il est arrivé à Médine, alors qu'il avait fait l'égir, il est désigné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme frère intime. Vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il fait des pactes de fraternité entre des musulmans. Souvent, il prend un musulman pauvre avec un musulman plus aisé et ils s'entraident. Ils deviennent des frères en Dieu. On est tous des frères et des sœurs en Dieu, mais là, c'est un lien très intime. Ils ont le devoir de s'entraider coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Eh bien, son frère intime, attention, préparez-vous, son frère intime, choisi par le prophète, c'est qui ? Ce n'est autre que Hamza. Hamza, radiallahu anhu. Ah oui, le lion d'Allah. Et là, ça me permet de rebondir sur quelque chose, Madina, tu vois, en préparant, je t'en remercie d'ailleurs, parce qu'on arrive toujours à faire des connexions quand on prépare, on fait des recherches. Vous savez, Zayd ibn Haritha, parmi ses mérites, il a été l'un des plus grands généraux de l'armée musulmane. Il y a eu d'abord Hamza, après Hamza, le plus grand général, ça a été Zayd ibn Haritha avec Zubayr. Et je me suis toujours demandé comment Zayd il a pu devenir un grand général alors que il n'a jamais eu de formation militaire. Hamza, il a eu une formation militaire parmi les notables de Quraysh. Zubayr, il a eu une formation militaire parmi les notables de Quraysh, mais pas Zayd. Bien, j'avance à une hypothèse. Sûrement, comme il a été le frère intime de Hamza, Hamza a dû lui prodiguer une formation personnelle, sûrement, concernant les tactiques, les techniques et les règles de l'art militaire. Et c'est ainsi que Zayd ibn Haritha il a été désigné comme général, puisque le prophète Hossein ne désigne jamais quelqu'un à une responsabilité s'il n'en a pas les compétences. Il n'y a pas de... Pour ceux qui parlent un peu l'arabe, ils le connaissent dans les pays du bled, on dit ça, on dit ma'rifa. Ma'rifa, c'est la connaissance. Allez, je te connais, je te donne un poste. Non, chez le prophète Hossein, il n'y a pas de ça. S'il te donne un poste, ça veut dire que tu as la compétence, premièrement. Et ensuite, si certaines personnes se valent dans la compétence, ils regardent, on va dire, la piété ou la religiosité. Mais vraiment, la compétence est importante.
Tu les donnes. Donc voilà, ouais, c'était... Là, quand même, hein, que ce soit sur le... tu vois, si on revient sur le fait que Zayd, il est parsu de formation militaire, moi, je me disais, mais encore une fois, c'est de la méditation. Et c'est une pensée, c'est une réflexion, plus même que de la méditation. Tu sais, il y a cette expression, on dit en anglais « lead by example », c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un devant toi qui a un comportement exemplaire et en fait, que tu le veuilles ou non, quand tu as un comportement exemplaire, tu rayonnes en fait. Les gens qui sont derrière toi, ils te regardent et ils disent oh, « c'est pas mal ça, ah ben moi Inch'Allah, quand je serai grand ou si un jour j'ai son poste, je ferai comme ça ». En fait, les gens, ils prennent des notes et parfois, tu n'as même pas besoin de leur dire « tu sais, si un jour tu es général, il faudra faire ci ». Non, la personne, elle est tellement… Et Dieu sait si on connaît le charisme de notre compagnon Hamza, qu'elle fasse miséricorde, qui est rayonnant et subhanallah, ça rayonne tellement que ça rayonne jusqu'en 2023 au moment où on se parle. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça et ce que tu as dit à la fin sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam sélectionnait les personnes, ça doit nous donner à méditer parce qu'effectivement on est pour certains nés dans des pays où la connivence a été légion pendant des années et on a vu les dégâts que ça a pu causer, subhanallah.
Oui, tout à fait. Barakallahu fiki pour ce retour. Effectivement, le avoir un modèle est une chose, essentiel, surtout à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux où
parfaitement.
N'importe qui peut prétendre être un modèle. Hein, et ça d'ailleurs, j'en profite, faisons attention envers nos enfants, nos plus jeunes, de bien les cadrer concernant les modèles qu'ils prennent.
C'est ça que le réel.
Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens sur Zaïd. Parmi ses mérites, trois autres mérites sur lesquels je vais m'arrêter, il est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, il est le bien-aimé. C'est le seul à avoir eu ce titre. Quand on dit c'est le bien-aimé, moi je vais utiliser un autre terme. Ouais, ouais. C'est moi j'utilise un terme, c'est le chouchou, ça nous parle. Hein, ah, t'as un chouchou, ouais, c'est mon chouchou. Eh ben Zayd ibn Haritha, c'est le chouchou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son chouchou. Il peut rien lui refuser. Il peut rien lui refuser. Et le fait qu'il soit nommé comme ça, c'est les compagnons eux-mêmes en fait qui lui ont donné ce titre. C'est pas le prophète sans même. C'est les compagnons. Mais le prophète alayhi salatu wasalam, on le verra dans certains hadiths, il s'est exprimé de la sorte où il a dit la personne que j'aime le plus parmi les gens qui m'entourent, c'est Zayd ibn Haritha. On va le voir, il va le mentionner, et il va même mentionner un autre nom. Je vais pas spoiler la suite, mais un autre nom qui va être encore le chouchou supérieur. Il va surpasser Zaïd en tant que chouchou, mais ça, on le verra après. Je mets un peu de suspense. Comme ça, on va rester jusqu'au bout, inshallah. Donc, il est le chouchou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé. C'est comme ça que les autres compagnons l'ont surnommé, voyant qu'il avait certains privilèges que ne pouvait pas avoir. Et enfin, ça, c'est pas des moindres. Oui. Alors là, il est le seul compagnon. Et là, j'en ai des frissons. Écoutez bien. Il est le seul compagnon à avoir son nom mentionné par Allah dans le Coran. Imaginez-vous qu'Allah prononce votre nom, mais qu'en plus il l'immortalise dans le Coran, et que ceux qui vont réciter votre nom, ça va devenir un acte d'adoration par lequel ils vont gagner des hasanettes. Eh bien, le seul nom parmi les compagnons qui est mentionné dans le Coran, c'est Zaïd. Et non, c'est pas Abu Bakr, c'est Zaïd. Lorsqu'Allah Azzawajal nous dit « فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا » Et quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, on le verra plus tard, ça parle de Zaynab, hein, il y a un moment très spécial qu'on va aborder, voilà. Allah Azzawajal mentionne le nom de Zayd directement dans le Coran et il l'a immortalisé. Et enfin, parmi ses mérites, le dernier que je vais citer, c'est qu'il est un shahid, il est un martyr. Zaïd, il est mort martyr à la bataille de Mutta. La bataille de Mutta, c'est une bataille qui a eu lieu contre une tribu arabe qui s'appelle les Rassanides et qui était des partisans des Roms, des Byzantins. Et la tribu des Rassanides avait tué le compagnon Al-Halith ibn Umayr qui était venu apporter une lettre. Vous savez, vous avez déjà vu peut-être dans le film Risala ou dans la série Omar, vous savez, le prophète, il envoie des messagers avec des lettres. Démissive au grand gouverneur des régions avoisinantes. Bien, parmi ses compagnons envoyés, il y a le compagnon Al-Halith ibn Umayr, radiallahu anhu, qui lui va aller vers les Rassanides. Le chef des Rassanides, un homme très mauvais, va le tuer. Et ça, c'était quelque chose qui était contre les règles internationales en vigueur à l'époque, les règles de diplomatie.
Et à partir de là, le prophète.
Exactement, c'est ça. En fait, c'est un peu les ancêtres des ambassadeurs que nous on a aujourd'hui. Ils sont intouchables hein, quand ils sont dans un pays. Bah c'est pareil. Quand on envoie un émissaire avec un message, il est intouchable. Et là, le chef des Rassanides va assassiner l'émissaire. Donc cette fois-ci, le prophète Hassan, il va monter une armée pour combattre les Rassanides. Et il va mettre à la tête de l'armée Zayd ibn Haritha. Et d'ailleurs, il dira, parce que le prophète Hassan, il est sous l'effet de la révélation, et il dira: si Zayd vient à tomber, c'est alors Ja'far ibn Abd al-Muttalib. Ja'far ibn Abu Talib. Ja'far, le frère de Ali. Hein, Ja'far qui va prendre le commandement. Et là, vous voyez que Zayd, il est devant Ja'far hein, dans le commandement. Si Zayd y tombe, c'est Ja'far qui prend le commandement. Si Ja'far y tombe, c'est Abdullah ibn Rawaha qui prend le commandement. Et effectivement, Zayd va tomber martyr lors de la bataille de Mutta. Donc il meurt en l'an 8 de l'Égir. Voilà pour ce qui est d'une manière très succincte et brève, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire concernant sa biographie.
Est-ce qu'on peut te, enfin, est-ce que moi je peux te demander du coup, Farid, quels sont, parce que tu vois, t'en as, alhamdoulilah, machallah, t'en as dit beaucoup et en même temps, on se dit, on a envie d'en savoir plus. Alors on le sait, on est limité dans le temps, etc. Et c'est moi la première qui t'ai dit, ben, il faudrait qu'on fasse plus le focus sur les mariages. Mais tu vois là, quand tu en parles, je me dis, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que tu en parleras après, mais en fait, on a envie de savoir qu'est-ce qui le rend si spécial. Tu sais, quand on entend une personne, lui, c'est le chouchou. Tu sais, souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'il a de plus que... Qu'est-ce qu'il fait dans son caractère, dans son comportement, qu'il a cette préciosité? Parce que tu l'as très bien dit, il est précieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné. Mmh. En plus, dans un moment très délicat dans le Coran. Mais on a envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a des écrits, des propos à ce sujet qui nous permettraient de comprendre encore plus le rôle et la préciosité de ce personnage?
Une chose, Madina, une chose. Et tu vois, t'as bien fait de le soulever. Là, ça me touche. Et j'ai la certitude que c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dans son cœur. En fait, Zayd, vous savez, il a été capturé, il a été vendu comme esclave. Le père de Zayd, qui s'appelle Al-Haritha, et l'oncle de Zayd, ils vont mener une enquête à travers toute l'Arabie pour retrouver Zayd. Et ils vont réussir à le retrouver. Ils vont arriver à la Mecque, ils vont aller chez le prophète, sans même qu'il n'était pas prophète encore à l'époque, et ils vont lui dire, voilà, on est les parents de... je suis le père et l'oncle de Zayd, on vient pour le récupérer. Et le prophète, sans même, il va leur dire, voilà, il va les accueillir, bien sûr, chaleureusement, etc. Il va leur dire, moi, c'est normal, c'est votre droit, c'est votre enfant. Il est heureux qu'il puisse les retrouver. Il va dire, mais je ne peux pas forcer quelqu'un. C'est à Zayd de choisir. Il va appeler le petit Zayd, il était très jeune. Zayd va retrouver son père, son oncle, imaginez-vous la scène de liesse, ils sont heureux. Et là, le père dit à Zayd, tu rentres avec nous à la maison. Et Zayd va dire non. Il va dire non, je reste avec lui. Il a choisi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que son propre père. Et il va dire une parole. Il va dire une parole qui montre aussi toute la perspicacité qu'il avait, malgré son jeune âge. Il va dire à son père, « Oh mon père, j'ai vu en lui des choses que je n'ai vues chez personne d'autre. » Dès que son père il va entendre ça, il va tomber en pleurs et il va remercier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il va lui dire, dans le sens, « Prends soin de lui. Je sais maintenant qu'il est entre de bonnes mains. » À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre Zayd par la main, il va aller vers le Kaaba et il va faire un appel public. Et il va dire, celui-là, il s'appelle Zayd ibn Muhammad. Il est Zayd, le fils de Muhammad, c'est-à-dire il l'adopte. À ce moment-là, il l'adopte. Et il porte le nom de Zayd ibn Muhammad, ce qui veut dire qu'il va hériter de lui, etc. Donc voilà, je pense, Madina, vraiment... Pourquoi il a une place particulière dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, pour ce choix qu'il a fait, et deuxièmement, pour sa perspicacité. Avant qu'il soit investi de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà reconnu, lui Zayd, en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un caractère exceptionnel.
C'est magnifique, parce que ça aussi, ça nous fait méditer, en fait. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà dit, en fait, que... C'est pas qu'on n'est pas véritablement croyant, mais si on n'arrivera pas au bout de notre foi tant qu'on n'aimera pas le prophète sallam plus qu'on s'aime nous-mêmes, plus qu'on aime. Et Zayd, il avait déjà compris ça, en fait. Hein. C'est incroyable, parce qu'en fait, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà de ses parents. C'est fort, quand même. Et effectivement, comme tu l'as dit, il a été très perspicace, très mature aussi, on peut le dire, parce qu'il a senti que cette personne-là était bien trop spéciale pour s'en éloigner, alors que quand même, ses parents venaient de loin, enfin son oncle et son père. Et juste avant qu'on parte sur l'union de Zayd et Zaynab, quelle leçon de parentalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, je peux pas choisir, je peux pas obliger Zayd à partir. Alors ça, et je sais que c'est pas facile, hein, je pense, parce qu'il y a des moments où on se dit, mais non, justement, si l'enfant est jeune, c'est à nous, en tant que parents, de les protéger, de décider pour eux, etc. Et à bien des égards, c'est vrai. Mais alors, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que Zayd était quelqu'un de spécial. Il s'est dit, cet enfant-là, il doit pouvoir choisir par lui-même. Mais en tout cas, ça aussi, ça laisse à méditer, je trouve.
Mashallah. Si tu me permets, je vais noter ce que tu viens de dire, parce que, alors là, c'est incroyable. J'avais pas du tout pensé à ça. Alors, tu as utilisé un hadith pour appuyer un propos et l'argumenter. Vraiment, barakallahu fiki, je vais le noter. c'est qu'effectivement, le prophète Sam, il a dit, nul ne sera véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que lui-même. Et Zayd, en vérité, c'est ce qu'il a fait.
Bah, c'est ça, c'est un très jeune âge.
J'ai pas du tout pensé à ça, et très très bien. Je le note parce que c'est exactement ça. Et à un très jeune âge, en plus.
On peut parler du coup de l'union de Zayd et de Zeynep parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et je pense que c'est une union qui est connue et en même temps je pense qu'il gagne à être connu et qu'il gagne à être encore plus connu. Donc je t'en prie, parle-nous-en avec tes chardins.
Très bien. Donc le mariage avec Zeynep bint Jahsh, elle s'appelle comme ça. Biographie vraiment très très courte. Zeynep bint Jahsh, faut savoir qu'elle est la fille de la mère de Zaynab, hein, elle s'appelle Umayma bint Abdelmuttalib. C'est-à-dire que Zaynab, c'est la cousine germaine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du côté maternel. La mère de Zaynab, c'est la sœur du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'ils sont cousins germains. Le frère de Zaynab, il est très connu. C'est un compagnon très connu. Il s'appelle Abdullah ibn Jahsh. C'est un grand guerrier qui est mort martyr d'ailleurs à la bataille de Badr. Elle est parmi les tout premiers musulmans. Alors elle a embrassé l'islam au moment où les gens rentraient dans la maison d'Al-Arqam. Donc elle fait partie aussi des tout premiers. Et elle meurt en l'an 20 de l'Hégire. Elle avait environ 53 ans. Elle est enterrée au Baqir, d'ailleurs, à Médine. Et c'est le grand Omar ibn al-Khattab qui va faire la prière mortuaire sur elle. Allez, maintenant, on en vient à son mariage avec Zayd. Comment ils ont fait pour se marier? Comment ils ont fait pour se rencontrer? Eh bien, en vérité, leur mariage, il a été une mise en relation. Il y a eu un intermédiaire. Je reviens sur la notion d'intermédiaire dans le mariage, une chose très importante. Quand on a des difficultés à se marier, il est important d'avoir des intermédiaires qui peuvent faire un peu ce qu'on appelle entremetteurs, qui organisent des rencontres. Ben là, l'intermédiaire entre Zayd et Zaynab, c'est le top du top des intermédiaires. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait l'intermédiaire. C'est lui, en fait, qui va proposer à Zaynab d'épouser Zayd, et il va proposer à Zayd d'épouser Zaynab. Alors elle, Zaynab, elle va refuser la demande. Elle va refuser parce que, selon ses critères, Zayd ne rentre pas dans ses critères. C'est par rapport à ça. Hein, elle a certains critères, d'ailleurs, il est important, hein, j'y reviendrai plus tard à la fin, dans la conclusion, je vais en parler, il est important d'avoir des critères. On peut pas vouloir se marier sans avoir des critères. C'est perdu d'avance. Il faut avoir des critères pour bien sélectionner son futur conjoint. Donc elle, Zaynab, elle a d'abord refusé la demande.
Est-ce qu'on connaît le détail de ces critères ou juste dans les récits qui nous sont rapportés, on nous dit juste qu'ils ne correspondaient pas?
Alors oui, on a parfois certains détails qui sont avancés. Certains disent que le critère de Zaynab, c'était le statut social. Parce qu'en fait, Zayd, c'est un esclave affranchi. Alors, vous savez que, à cette époque-là, les esclaves affranchis, c'était le plus bas niveau de la société. Et elle appartient à la noblesse de Quraysh, le plus haut degré de la société. Donc, ce serait pour cela, qu'elle avait du mal à accepter son mariage avec lui. Elle voulait plutôt quelqu'un, dans ses critères, qui appartient à la noblesse arabe.
C'est important, je trouve, de le noter parce que aujourd'hui, si on fait un parallèle avec ses contemporaines, c'est un peu une femme qui a fait de longues études, qui est médecin. On lui présente une personne qui a un métier qui est fondamentalement à l'opposé du sien. On va pas en citer parce que l'idée, c'est pas de dénigrer, mais en fait, c'est juste pour souligner à quel point. Pourtant, Zaynab, elle a fait partie des premiers convertis, des premiers musulmans. Tu l'as très bien cité, mais c'est juste que moi-même, qui me suis mariée sur le tard, je peux le dire. Parfois, c'est dur. On a beau essayer de travailler sa foi éperdument, ça peut être difficile de mettre à mal certains critères que l'on sait. En tout cas, je peux parler pour moi, que l'on sait pas forcément prioritaires au-dessus de la religion, mais c'est des critères qu'on peut avoir du mal à abandonner parce que socialement, on a des codes, on a des critères, et c'est dur de les abandonner. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Je me suis dit, mais encore aujourd'hui, des Zaynab, il y en a plein, en fait. Et c'est pas pour autant que c'est pas des personnes bien, mais en tout cas, c'est un combat qu'il est difficile de mener.
Oui. Non, il est légitime, hein, d'avoir des critères. Bien que, ici, par exemple, le critère de Zaineb, c'est un critère donc qui est propre à elle. Et
bien
par
sûr.
Rapport, peut-être d'autres femmes aussi la suivent dans cela. Mais on va voir, je vais y revenir à la fin. On va voir que une autre femme, et pas des moindres, elle, ce critère-là, elle ne prenait pas du tout en compte. On en reviendra plus tard, Inch'Allah. Donc, quand le prophète Hassan, il a proposé à Zaineb, elle a refusé. C'est alors que Allah Azza wa Jalla il a révélé le verset qui dit wa ma kana lil mu'minin. En fait, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens, il n'est pas permis à un croyant idha qada Allah, lorsque Allah a décidé, wa rasuluhu et son messager. C'est-à-dire quand Allah et son messager ils ont décidé une chose, il faut l'accepter. Et là, forcément, on en déduit, on en comprend que en fait, le prophète Hassan, quand il a proposé Zaineb à Zayd, c'était pas de lui-même. Ça venait de la révélation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui voulait que Zayd et Zaineb, ils se marient. Pourquoi? Eh ben, vous allez en savoir dans la suite, Inch'Allah. Donc, le prophète, sallam, il a été un intermédiaire par ordre d'Allah, tout simplement. Donc, Zaineb et Zayd, ils vont vivre ensemble et leur vie de couple ne va pas être épanouie. Mais alors, vraiment pas. Ça clash. Ça clash dur, ça clash souvent, c'est pas bon. Et donc Zayd il va venir se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et il va s'entretenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'intimité et Allah azza wa jalla il va nous relater qu'est-ce qui s'est dit dans cette intimité là. Allah azza wa jalla nous dit hein dans le sens des versets, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, la suite on le verra après, nous te la fîmes épouser. Donc ici, quand Zayd y vient se plaindre, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle un verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été révélé en fait en trois parties. La première partie, c'était pour dire à Zayd de craindre Allah et de patienter. Wattaqullah, il est dit dans le verset. Ensuite, la deuxième phase, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il révèle publiquement ce que le prophète Sam, il avait dans son fort intérieur et qu'il cachait. En fait, le prophète Sam, depuis le début, il savait qu'il y avait quelque chose. Il savait que si Allah il avait ordonné à Zayd et Zaineb de se marier, c'était pas anodin. Il y avait forcément quelque chose derrière. Et lui, il a senti la chose. Il avait senti que Allah Azza wa Jalla, il avait fait exprès pour que Zayd et Zaineb divorcent et qu'il donne Zaineb en mariage au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, le prophète, il avait très peur de cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, chez les Arabes, il y avait une tradition, une coutume qui disait que l'une des plus grandes abominations, c'est d'épouser la femme de son fils. Une des plus grandes abominations qui existent, c'est d'épouser la femme de son fils. Et le prophète, en lui-même, il se dit, mais les gens, ils vont dire quoi de moi? Moi qui suis le prophète, je suis quelqu'un de mauvais alors? Et Allah lui dit, tu as peur des gens, mais c'est de moi qu'il faut avoir peur. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, c'était un processus pour rappeler que Zayd, et ça va être en fait un enseignement pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Zayd, il n'est pas le fils de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas son fils. Déjà. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas son fils. Il vient rappeler cette règle. Et il vient rappeler que quand vous avez des enfants, ce sont ceux que vous avez de votre lignée. Vous pouvez pas donner le nom à un autre enfant. Vous pouvez pas faire hériter un enfant qui n'est pas le vôtre. Là, Allah Azza wa Jalla est venu recadrer tout ça par rapport à la relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd et ce qui se faisait à l'époque chez les Arabes. Donc c'est fini. Maintenant, la filiation, et ça c'est important, la filiation, elle doit être par rapport au géniteur. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important puisque forcément après avec le temps, si on connaît pas la filiation des gens, imaginez-vous, il y en a qui peuvent se marier, peut-être ils sont des demi-sœurs, des demi-frères, ou c'est très grave. Donc,
oui,
l'importance de connaître la filiation. Donc, Allah Azza wa Jalla, il a mis tout un processus pour arriver à ça. Il a marié Zaineb et Zayd pour les faire divorcer. C'était prévu déjà. qu'il divorce afin que le prophète soit sallam, par ordre d'Allah, il n'a pas le choix, il épouse Zaynab. D'ailleurs, c'est pourquoi Zaynab, elle disait à Aïcha, ouais, Zaynab, des fois, elle fait trop la maline. Elle vient, elle dit, oui, vous êtes marié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que soit vos pères, ils ont demandé la main, soit parce que le prophète, vous a donné la main. Elle dit, moi, c'est Allah qui m'a marié avec lui. Hein? Elle disait, moi, c'est Allah qui m'a marié avec lui directement à travers la révélation. Et oui, c'est vrai. Elle a été mariée directement par Allah à travers la révélation. Donc le verset là qu'on avait entendu, hein, donc il annonçait là, le divorce prochain de Zaynab et Zayd, et il annonçait aussi le mariage prochain de Zaynab avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les enseignements de ce mariage que je voudrais partager, ils sont nombreux, mais les principaux, il y en a quatre. Premier enseignement de ce mariage entre Zayd et Zaynab, l'importance des critères concernant le choix du futur conjoint. Ils sont très importants, mes frères et mes sœurs. Autre enseignement. Les gens pieux peuvent connaître un non-épanouissement dans leur couple. Ben oui, ça arrive. Les gens pieux peuvent ne pas connaître un épanouissement dans leur couple. Zayd, c'est un homme pieux. Il fait partie des plus hauts degrés de la piété. Zaynab, qui fait partie de Oum al-Mouminin, les mères des croyants, elle fait partie des plus hauts degrés de la piété. Malgré ça, ils ont connu le divorce. Donc, à ceux qui nous écoutent parmi les auditeurs, si vous avez connu un divorce, ne pensez pas que c'est un échec ou que vous êtes complètement perdu, que...
C'est un manque de foi ou c'est un manque de religiosité, c'est ça en fait.
Exactement, non. Ceux qui étaient meilleurs que nous, ils sont passés par cette étape-là, ils sont passés par cet événement qu'on appelle le divorce. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le Coran, il a réservé des passages bien précis pour cadrer le divorce, expliquer comment ça se passe. C'est pas anodin. Donc, les gens pieux peuvent connaître un non-épanouissement dans leur couple. Et là, quand on parle de gens pieux, souvenez-vous, Zayd, on a dit, il a été élevé directement par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il a connu le divorce.
Et tu fais bien de le rappeler ça parce que, pardon, juste avant que tu ailles sur les prochains enseignements, mais parce que on se l'est dit en off avant, vraiment quelques minutes avant d'enregistrer, les gens bien, ça peut divorcer. Et vraiment, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter dessus parce que sincèrement, quand on n'a pas connu le divorce, quand on n'a pas, je pense qu'il peut y avoir une forme de, j'irai pas jusqu'à dire un mépris parce que c'est pas vrai, mais une forme de croyance qui te fait dire, ah ben je suis désolée, si t'as la foi, tu patientes, si tu patientes, bah tu divorces pas, c'est facile. Alors que en fait, quelque part, peut-être vraiment Allahu a'lam, mais peut-être que aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis le divorce entre Zaynab et Zayd, entre Zayd et Zaynab pour dire c'est possible, c'est une leçon. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu des pieux prédécesseurs qui s'étaient séparés, on aurait pu se dire ah c'est chaud là quand même. Ah, quand même forcé de constater que eux ils ont jamais divorcé, mais là c'est écrit dans le Coran. Donc c'est quand même pas anodin. C'est on le sait, Allah il n'aime pas le divorce, mais il ne l'a pas interdit non plus. Donc on n'est pas en train de faire la promotion du divorce, loin de là, mais on est juste en train de. Je pense que c'est bien de remettre cette réalité là. Il y a des gens bien qui divorcent. En fait, divorce n'égale pas forcément, comme tu dis, c'est pas la défaite, c'est pas l'échec, et c'est pas divorce égale mauvaise personne ou mauvaise religiosité. C'est ça un peu ton propos.
Exactement, c'est tout à fait ça. Tu l'as très bien reformulé. C'est exactement ça. Donc, les gens pieux peuvent connaître un non-épanouissement dans leur couple et ils peuvent arriver à divorcer. Autre enseignement aussi, c'est l'importance du consentement dans le mariage. Ça fait partie des piliers, en vérité, du mariage. On peut pas se marier sans consentement. Ici, on a bien entendu que Zaynab, en fait, elle n'était pas consentante au début. Elle n'était pas consentante. Mais il y a eu la révélation. Et la révélation, elle passe au-dessus de tout. La révélation est venue parce que il y avait un processus qui allait amener à une loi qui concerne tous les musulmans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il allait au-delà du consentement, mais c'est une spécificité voulue par Allah azawajal qui fait ce qu'il veut. C'est lui le maître de l'univers. Et quand il fait quelque chose, c'est toujours par science et sagesse. Effectivement, derrière tout ça, il y avait une grande sagesse. Et d'ailleurs, dernier enseignement, derrière chaque divorce, il y a un bien et une sagesse. Toujours. Il y a toujours un bien et une sagesse si on prend le temps de s'arrêter, de méditer et d'essayer d'en tirer le positif et le négatif et faire une sorte de bilan. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, notamment, il a voulu que le divorce ait lieu entre Zayd et Zaynab afin d'amener une autre situation qui allait provoquer la révélation. Donc il y avait une sagesse derrière ça. Et aussi l'objectif des épreuves, ne l'oublions pas, le divorce c'est une épreuve. Et l'objectif des épreuves c'est de purifier ou d'être élevé en degré. C'est de purifier ou d'être élevé en degré. Zainab, elle a été élevée en degré. Pourquoi ? Parce qu'elle a épousé quelqu'un de meilleur encore. Zayd, c'est quelqu'un de bien. C'est un très haut niveau. Mais elle a épousé après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, et ça aussi, ça nous rappelle qu'on peut très bien divorcer et trouver par la suite quelqu'un de meilleur.
Bien sûr.
Donc voilà pour ce qui concerne les principaux enseignements de ce mariage entre Zayd et Zainab.
Ben, mashallah, merci beaucoup Farid pour cette première union dont on apprend beaucoup, comme tu l'as très bien dit. En fait, c'est l'histoire d'une séparation, mais c'est une histoire qui est riche en enseignements. Et en tout cas, de ce que tu expliques, moi, ce que j'entends aussi dans cette séparation, c'est qu'il y a pas de, violence, il y a pas de heurts, en fait. C'est-à-dire que ça va pas et on se sépare quand même avec de l'adab. Ça aussi, ça peut être aussi un moyen de méditer dessus, de se dire. Ça n'a pas abouti à un mariage qui durera jusqu'à la fin de leur vie. Et pour autant, ils ont pu se séparer avec adab, avec raison, et comme tu dis, trouver mieux derrière. Et peut-être aussi que Allah leur a donné mieux parce que, en fait, ils ont accepté leur destin et dans le mariage et dans la séparation. C'est ça, moi, que ça me dit quelque part aussi. La manière dont ils se sont séparés, c'est-à-dire que ils ont accepté le mariage, et ils ont accepté la séparation.
Oui. Et il y a tout, comme tu dis, il y a tout un, une panel d'œuvres qui mène les deux protagonistes, Zayd et Zainab, à se diriger vers un divorce, on va dire, à l'amiable, en de bons termes. Mmh. On voit bien que, par exemple, Zayd, il va chercher un intermédiaire en la personne du prophète. Ça, il va chercher un médiateur. Voilà, ça va pas, il va voir quelqu'un, il en parle. Il reste pas tout seul dans son coin. Non, mais si j'en parle, c'est la honte. Moi, je veux divorcer, c'est pas bien. Non, non, il y va, il ouvre son cœur, il a quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui va lui donner des conseils. C'est important, quand à un moment dans le couple, on n'arrive plus à communiquer l'un et l'autre, eh ben, il faut aller voir un médiateur. Quand je dis un médiateur, faut pas penser tout de suite à un médiateur professionnel, hein. Je parle pas de ça. Je parle d'un médiateur dans vos connaissances. Quelqu'un dans vos connaissances qui est proche de vous, dont vous témoignez de la bonne moralité, et qui va pouvoir venir dans le conflit d'une manière totalement neutre. Ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est ce qu'il a fait le prophète, ça. D'ailleurs, il a dit à Zayd, voilà, crains Allah, patiente, je t'ai entendu, etc. Et puis finalement, Allah Azzawajal a révélé les versets. Mais il a pas dit, ah oui, bah, c'est une femme pas bien, ou alors il a dit, mais non, c'est toi qui fais les choses mal. Non, neutre. Et il essaye d'arranger les choses. Mais si les choses ne peuvent pas s'arranger, effectivement, quand il y a la rupture et le point de non-retour, vient alors le divorce.
Et à la suite de cette séparation-là, il va y avoir une nouvelle union pour notre cher Zayd. Et en fait, moi, quand tu m'as parlé de cette union-là, alors pour être très honnête, je la connaissais même pas. Donc moi, je suis partie faire mes petites recherches pour pas arriver complètement sans information. Et en fait, j'ai vu à quel point il y avait peu d'informations sur son second mariage, parce qu'on entend beaucoup Zayd et Zainab, etc. Pour plein de raisons. Encore une fois, c'est une histoire qui est mentionnée dans le Coran. Comme tu l'as très bien dit, c'est un mariage qui a probablement été mis en place par ce matin-là pour justement dire ce n'est pas son fils, en fait. C'est justement pour vous montrer à quel point c'est pas son fils. Je peux faire en sorte que le prophète Hassan, il se marie avec son ex-épouse. Et en fait, quel acte plus fort que ça? Pour justement montrer à quel point c'est pas son fils. Donc c'est hyper intéressant. Mais quand on va sur le mariage entre Zayd et Barakat, dont tu vas nous parler, moi j'étais presque triste pour cette femme, absolument incroyable, parce que y a très peu de lignes sur ce mariage avec Zayd, et pourtant c'est un mariage qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est juste en français qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, ou si c'est dans l'histoire, même dans les propos en arabe, où on a peu de ressources là-dessus?
En fait, Madina, de manière générale, dans les biographies, c'est très pauvre en français. Il faut vraiment revenir à l'arabe, effectivement. Quand on va revenir dans les ouvrages en arabe, cette fois-ci, ça va être prolifique. On va trouver vraiment beaucoup de choses. Wow. Oui. Et c'est dommage, en français, ça manque beaucoup. En anglais, ils sont beaucoup plus actifs à ce niveau-là. notamment les traductions de quelques ouvrages que ce soit, hein, religieux, ils sont beaucoup plus actifs. Nous, ici en France, on a un certain retard. Et il y a des livres, bon, ils sont, surtout les livres biographiques, ils sont volumineux. C'est pour ça que très souvent, ils sont pas traduits. Mais c'est des mines d'or. On trouve vraiment à l'intérieur des détails. Moi, j'appelle ça les détails croustillants. Et ces détails-là, ils renforcent la foi. Il y avait le grand maître spirituel, Junaid. Hein, on l'avait interrogé, on lui avait dit « Qu'est-ce que tu penses des gens qui racontent les biographies, les histoires des pieux passés ?» Il a dit « Junud Allah ». Il a dit « C'est des soldats d'Allah ». C'est-à-dire, les histoires des gens pieux, c'est des soldats d'Allah. Ce qui t'aide à renforcer ta foi et avancer sur le droit chemin.
C'est magnifique. Enfin, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter 30 secondes dessus? Parce que je suis obligée de refaire le lien avec cette parenthèse que tu as ouverte précédemment en disant faisons attention avec les réseaux sociaux à qui est-ce que nous prenons pour modèle, en fait. C'est-à-dire que c'est impératif. Enfin, en quoi ce sont des soldats d'Allah? C'est parce que ils nous préservent des modèles qui sont exemplaires, qu'on ne pourra pas retrouver dans nos époques contemporaines. C'est ainsi, c'est comme ça. Et le problème, c'est que plus on s'éloigne de ces personnes-là, plus ça peut être difficile de préserver sa foi, parce que parfois, quand la foi, elle est basse, ce qui peut aider, c'est de se dire, non, mais attends, mais comment moi je fais pour aller, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des batailles où ils mouraient tous de froid, ils mouraient tous de faim, ça va, tu peux attendre quelques heures avant le tour, ça va bien se passer, ça redonne de l'énergie, en fait. C'est pas pour se culpabiliser, c'est, on prend de leur force et on la met comme un sac à dos et on avance encore plus fort. Donc c'est en ça que c'est des soldats d'Allah, et c'est en ça que je trouve ça extrêmement, précieux. Et j'ouvre une dernière parenthèse, c'est que tu l'as très bien dit, en arabe c'est prolifique, et je me suis dit ben de l'importance d'apprendre l'arabe, en fait, pour nous musulmans francophones. C'est pas facile, c'est dur, on a un certain âge, la mémoire fonctionne moins bien, l'apprentissage est plus difficile, mais Allah, il nous l'a dit, la récompense elle est incroyable. Donc c'est un rappel pour moi, hein, d'abord, hein, on est bien d'accord, donc qu'on se redonne aussi là un peu du courage pour aller chercher ces ressources là parce que moi je reste persuadée, vraiment, je le dis, je suis convaincue que sans la langue arabe, on peut passer à côté de sa foi. Moi, je le dis, franchement, parce que il y a des passages, dans le Coran, où on a des traductions qui passent à côté de certaines subtilités, et on se dit, mais c'est dommage. Quand on a des professeurs qui nous accompagnent là-dessus, on se dit, mais attends, mais cette sourate, je suis passée combien de fois dessus, et je suis passée à côté. Vraiment, je suis passée à côté. Et j'aurais pu passer à côté de ma foi. Donc, pardon, je referme cette parenthèse, mais c'était important pour moi de l'ouvrir.
Non, c'est important, et juste pour orienter les auditeurs, en fait, cette science de la biographie des gens pieux, on appelle ça ilm al-rijal, la science des hommes. Et quand oui. On dit des hommes ici, c'est des hommes et des femmes qui
avec un grand H, comme on dit.
Voilà. En fait, cette science-là, c'est une branche parmi les sciences du hadith. En fait, en islam, on est la seule civilisation à avoir cette science approfondie. On est capable d'avoir des millions de biographies afin de vérifier les sources qu'on nous a transmises. Ça n'existe qu'en islam. Ça, c'est la sunna. Mmh. Il y a des grands savants qui ont préservé la sunna avec les chaînes de transmission.
De transmission.
Donc très souvent, ces ouvrages-là, ils ont été écrits au service des gens de hadith. Quand ils vérifiaient les chaînes de transmission, ils allaient chercher une biographie, ils vérifiaient, et ainsi ils pouvaient authentifier ou non le hadith.
Subhanallah.
Voilà, c'était un peu de technicité, mais nécessaire. Mais
c'était la bienvenue, exactement.
Très bien. Donc la partie suivante, le mariage avec Baraka. Alors, d'un point de vue chronologique, il faut savoir qu'en fait, le Zayd, il s'est marié avec Baraka avant de se marier avec Zaynab. Il était d'abord marié avec Baraka, et en fait, c'était sa deuxième femme, Zaynab, quand il était avec Baraka. Hein, c'était sa deuxième femme, Zaynab.
Alors là, tu m'apprends voilà. Un truc incroyable. D'accord.
Oui. Il s'est marié avec Baraka avant de se marier avec avant Zaynab. Mm-hmm. Voilà, ça c'est pour le repère chronologique. Hein. Mais ça ne change rien aux enseignements qu'on va voir. C'est toujours pareil. Et c'est parti. Allez, bismillah. Mm-hmm. Courte biographie de Baraka. Alors elle sera courte, Madina, hein, désolé. Baraka, il faut savoir que c'est une esclave originaire d'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est ce qui correspond à l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée. D'accord. Donc, elle appartient à cette région-là du monde. Donc, si vous arrivez, j'aime bien moi avoir les différents endroits, les régions du monde d'où viennent les compagnons et les compagnonnes, même pour essayer d'avoir déjà un minimum, vous savez, de représentation physique.
Ouais, de projection.
Par exemple, Salman le Perse. Voilà, Salman le Perse. C'était pas un arabe. Il était plus perse. Il avait un donc forcément un physique différent des arabes. Baraka, qui est originaire de Somalie, hein, d'Érythrée, Éthiopie, vous voyez un peu les personnes, comment ils sont là-bas, elle appartient, voilà, à cette lignée-là, physiquement, Baraka. Donc, c'était une esclave originaire d'Abyssinie. Et en fait, elle était achetée par un homme qui s'appelle Abdullah ibn Abdel Muttalib, hein, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, il avait acheté Baraka, et c'était une esclave qui lui appartenait. Quand Abdullah décède, avant la mort du prophète, avant la naissance, pardon, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, il hérite à sa naissance de Baraka. C'est-à-dire, Baraka, elle s'est occupée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance. D'accord, depuis sa et même je me permets de dire avant, puisqu'elle était avec Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle aidait, elle accompagnait, elle s'occupait de Amina durant toute la grossesse. Et après, elle a pris soin du petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès sa naissance. C'est pourquoi elle est Baraka. Écoutez bien ça, hein. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Elle est sa première nourrice. Beaucoup pensent que c'est Harima.
Tout à fait.
Non, non, non. Halima, elle est l'une des premières à l'avoir allaitée. Elle n'est même pas la première à l'avoir allaitée. Mais quand on parle de nourrice, on ne parle pas d'allaitement. Quand on parle de nourrice, une nourrice, ça a deux sens. Une nourrice, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un bébé. Et une nourrice peut être aussi quelqu'un qui nourrit le bébé en lui donnant le sein. Mais quand on parle de nourrice au sens en prendre soin du bébé, s'occuper de lui, la première à avoir eu ce privilège, c'est Baraka. Et la première à l'avoir allaitée, c'est une esclave aussi, qui a été libérée, qui s'appelle Thuwaïba. Thuwaïba, c'était une esclave qui appartenait à Abu Lahab, pour ceux qui connaissent, hein, l'oncle du prophète, l'oncle, qui va devenir un ennemi de l'islam, à tel point qu'Allah il a immortalisé son nom d'une manière péjorative dans le Coran. Il a la malédiction d'Allah. Pourtant, Abu Lahab, à la naissance du prophète, tellement il était heureux, il a libéré Thuwaïba, son esclave, et elle est partie au service du petit Mohammed pour l'allaiter.
Assalam.
Donc voilà, la première nourrice du prophète, c'est Baraka. Et elle s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge adulte et qu'il parte habiter chez Khadija quand il va se marier avec elle. Donc imaginez-vous, elle s'est occupée de lui pendant un quart de siècle.
Oui, bien sûr, c'est ça, j'allais dire, deux décennies au moins.
Un quart de siècle, elle s'est occupée de lui. Eh bien, quand il va partir se marier avec Khadija, il va faire une demande à Khadija. Il va lui dire de garder une pièce réservée à Baraka. Khadija va accepter. Et donc, Baraka, elle va venir habiter dans la maisonnée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dira à Khadija, ce petit-là, je ne l'ai jamais quitté. Je ne l'ai jamais quitté, je ne le quitterai jamais. Et donc, elle était dans la maison avec lui. Et il faut savoir que Baraka, c'est la seule femme à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ummi ». Maman, en dehors de sa mère. C'est la seule femme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ummi, maman, en dehors de sa mère ». Et Baraka, elle avait le surnom de Umm Aymen. Elle est connue aussi sous le nom de Umm Aymen. Puisque le premier enfant qu'elle a eu, il s'appelait Aymen. Elle s'est mariée avec un homme de Médine. C'était avant l'islam. Elle s'est mariée avec un homme de Médine. Et cet homme de Médine va décéder par la suite. Et donc, Baraka, Umm Aymen, va se retrouver veuve avec son enfant Aymen. Elle va revenir vivre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija. Voilà, pour que le décor soit planté. Donc, elle est la seule à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ummi. Et la petite parenthèse, vous savez, le prophète, alayhi salatu wa sallam, parfois, il a des paroles qu'il a prononcées uniquement envers une personne, exclusivement, et qu'il a dit à personne d'autre. Par exemple, Ummi, d'ailleurs, il dira... Bon, il y a des discussions sur l'authenticité de ce hadith, mais il dira « Baraka, c'est ma mère après ma mère. » Baraka ou Aymen, c'est ma mère après ma mère. Par exemple, parmi les paroles qu'il a...
Pardon, mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le fait que, en fait, il considère Umm Aymen comme sa maman adoptive et Zayd, c'était son fils adoptif. C'est fort quand même.
Oui.
C'est fort, ces gens-là se sont retrouvés, en fait. C'est des gens que le prophète sallam a aimés, ils se sont... eux-mêmes par la suite aimés, je trouve ça d'une beauté incroyable.
C'est ça, justement. Ouais. Non, mais c'est bien, et on va y revenir après, justement. C'est ça qui est incroyable et qui est magnifique. Juste une petite parenthèse, parce que j'aime ce genre de précision. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, parmi les paroles qu'il a dites à quelqu'un, il n'y a personne d'autre, le compagnon Sa'ad ibn Abi Waqas, il lui a dit, Osaad tire. C'était pendant la bataille de Uhud. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allait se faire tuer par l'ennemi, Sa'ad ibn Abi Waqqas était à côté de lui pour le défendre. Et il lançait des flèches. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, tire Sa'ad, que je sacrifie mon père et ma mère pour toi. Et Ali ibn Abi Talib, qui était pas loin sur le champ de bataille, c'est lui qui rapportera le hadith. Et dans, la manière dont il s'exprime en arabe quand il rapporte le hadith, pardonnez mon sang, il est dégoûté, quoi. Il est dégoûté. Il aurait voulu que ce soit lui. Il dit, le seul à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je donnerai mon père et ma mère, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Le seul à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je t'aime en lui donnant une doa. Je t'aime et il lui enseigne une doa. C'est le compagnon Mu'adh ibn Jabal. Il l'attrape par la main à la mosquée, il le tire comme ça, il marche avec lui en le tenant par la main, et il lui dit, Ya Mu'adh, Wallahi, inni uhibbuk. Oh Mu'adh, je jure par Allah, je t'aime. Et il va lui enseigner cette doa qu'on connaît tous, hein. Allahumma a'ini ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'adorer d'une manière parfaite, à me souvenir de toi et à te reconnaissant, hein, ce qu'on dit après la prière. Je ferme la parenthèse. Pour terminer la biographie de Aymen Baraka, elle va décéder pendant le califat de Uthman ibn Affan. Maintenant, on en vient à son mariage avec Zayd. Son mariage avec Zayd, il a eu lieu alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, et Khadija, ensemble, ils discutaient avec Baraka, qui était revenu après le décès de son mari et qui vivait chez eux, et il s'était inquiet pour elle. Et surtout Khadija, elle lui disait, Baraka, tu es en train de prendre de l'âge, ça serait bien que tu prennes un mari avant de trop t'avancer dans l'âge. Elle a dit, oui, mais qui voudrait de moi, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais m'en charger. Il va se charger de lui trouver un bon mari. Ah, ça manque aujourd'hui, hein, quelqu'un qui essaye de trouver un bon mari ou une bonne femme pour quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis avec ses compagnons, donc imaginez-vous, hein, les compagnons, ils sont là face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il va leur dire, qui d'entre vous voudrait épouser une femme du paradis? Ah, ils vont tous dire, bah, moi, hein. Lève tous la main. Il dit alors, bah, qui l'épouse? Aymen Baraka. C'est une femme du paradis. Ils vont tous baisser la main. Personne va vouloir. Alors, en faisant les recherches, certains savants, ils avancent le fait que, les termes utilisés, à peu près, hein, elle n'était pas gracieuse et elle était avancée dans l'âge. C'est pourquoi ils ont tous refusé. Sauf un, il s'est levé, il a levé la main, il a dit, moi, je prendrai cette femme du paradis en mariage, c'est Zayd ibn Haritha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va les marier. Et cette union-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est simplement incroyable. Pourquoi? Parce que, en dehors du sang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? En dehors de son propre sang, les deux personnes qui lui sont le plus proches intimement, c'est Baraka qui a été, comme tu l'as dit, sa mère adoptive, et Zayd ibn Haritha qui a été son fils adoptif. Ça veut dire, dans l'intimité, en dehors de son propre sang, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, et Ali qui est de son propre sang, ceux qui lui sont le plus proches, dans l'intimité, hein. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous réveillez le matin, comme nous dans la maison, on se réveille le matin, on voit qui? Les gens de notre sang. Et ben, en dehors de son sang, les gens qui avaient l'intimité la plus forte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Baraka et Zayd. Même Abu Bakr, il n'avait pas ce degré d'intimité-là. Eh bien, ces deux personnes, en dehors de son sang, qui avaient le plus d'intimité avec lui, il va les marier. Et ça a été l'un des moments les plus heureux dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les deux personnes qu'il aimait le plus en dehors de son sang, ils se sont unis, ils se sont mis ensemble. Et de leur union, et là j'en reviens à ce que j'avais dit au début, le fruit de leur union, c'est un enfant qui est très connu. Il s'appelle Oussama ibn Zayd, et il est surnommé après par les compagnons, le bien-aimé du bien-aimé. C'est-à-dire Zayd, c'était le bien-aimé, et bien lui c'est le bien-aimé du bien-aimé. Et il a encore surpassé Zayd dans le sens du chouchou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, déjà qu'il refusait peu de choses à Zayd, mais alors à Oussama, il ne refusait rien. À tel point qu'il y a une anecdote, hein, où il est dit que des notables étaient très peinés parce qu'une femme de leur tribu avait volé. Et la peine capitale allait être prononcée sur elle. Ils ont dit comment on va faire pour la protéger. Ils sont allés voir Oussama Ils ont dit, Oussama, va voir le prophète, tu dis qu'il enlève la sentence. Et Oussama, il y allait. Il a dit au prophète, mais le prophète, combien même il a un chouchou des chouchous, l'ordre d'Allah, il passe avant tout. Il se mettra en colère, il leur dira, ah, vous envoyez Oussama, vous envoyez Oussama. Mais il dit, je serai intransigeant avec la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
C'est une très belle leçon, voilà. Ça aussi.
Oui. Ouais, il a fait de même avec sa fille Fatima quand elle lui a demandé un esclave, serviteur. Vrai. Il dit, non, ma fille, je te donnerai pas, mais je vais te donner un dhikr à la place, que tu prononces le soir, pour prendre des forces. Là, il était, le prophète, ça, c'est le modèle d'excellence concernant la amana. Quand on lui confie quelque chose, c'est, d'ailleurs, moi, je vais te dire, Madina, depuis plus de 10 ans que j'enseigne la sira, il y a deux caractéristiques chez moi, il y a deux caractéristiques chez le prophète, ça, que je trouve, elles sont plus fortes et plus dominantes que toutes les autres, et encore plus dominante que chez les autres prophètes. C'est le respect du dépôt. Il a atteint un niveau, même les autres prophètes n'ont pas réussi à l'égaler à ce niveau-là. Et l'accessibilité. C'est déconcertant comment il est accessible.
Oui.
N'importe qui peut le voir n'importe quand. Incroyable sa simplicité. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour ce qui est de leur union. Maintenant, concernant ce mariage qui fut un mariage béni, un mariage heureux, un mariage où ils étaient totalement épanouis malgré la différence d'âge. J'ai fait exprès de pas le dire au début. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Baraka, elle s'est occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, elle devait avoir environ 14-15 ans quand elle s'occupait de lui. Mais imaginez-vous,
tout de même,
l'écart qu'elle avait avec Zayd. Et malgré ça, ça a été un mariage heureux. Donc la différence d'âge, elle n'est pas forcément un frein dans le mariage. La beauté de l'âme avant celle du corps. Oui, ça paraît utopique comme ça, mais pourtant c'est véridique, c'est ce qu'il a fait Zayd ibn Haritha, puisque il paraît que certains ont refusé parce qu'elle n'était point gracieuse, mais Zayd ibn Haritha, il a regardé cette femme qui elle est. Il sait, il l'a vue. Il sait qu'est-ce qu'elle a fait pour le prophète sans scène. Il connaît son degré et il entend que c'est une femme du paradis. Mais pour lui, c'est la plus merveilleuse des choses. La plus merveilleuse des femmes, pardon. Et c'est pourquoi il va accepter de se marier avec elle. Il a fait passer la beauté de l'âme avant celle du corps.
Est-ce que je peux te poser une question là-dessus, Farid? Est-ce que c'est pas, si on réfléchit à ça, est-ce qu'on peut pas se dire que, et ça, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi et je le pense vraiment, avoir des critères, c'est fondamental. Parce que c'est comme si on se dit, je veux conduire, mais vous savez pas où aller, en fait. Ah, t'arriveras jamais où tu veux aller. Les critères, ça sert à ça, en fait. C'est une espèce de GPS et des codes que tu rentres dans le GPS pour, Inch'Allah, arriver à bon port. Mais ma question, c'est, est-ce que, finalement, on doit pas parfois aller au-delà de certains critères par amour pour Allah? C'est-à-dire que c'est très important d'avoir sa liste de critères. Moi, je le vois comme ça, parce que potentiellement, on peut en avoir plein. Mais que parfois, par amour pour Allah, on se dit, on prend un petit stylo rouge, là, on se dit, qu'est-ce que je peux enlever, là? En disant, Allah, je l'enlève pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que ça compte comme bon point et surtout avec l'ambition de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelque part de... Parce que je trouve que quand on est célibataire, on a toujours vraiment des injonctions qui parfois peuvent être contradictoires. C'est important d'avoir des critères et d'un autre côté, ouais, mais il faut pas être trop compliqué, hein, parce que sinon tu vas jamais te marier. Et puis surtout, elle est où ta foi quand t'as trop de critères? Mais juste d'avoir cette petite nuance-là et de se dire dans cette histoire-là, Zayd, il a été au-delà, parce que Zayd aussi, il a des yeux. Hein. Je veux dire, c'est comme l'épouse du Laybib, ils ont des yeux, ils savent, mais ils se disent, ah, ça, c'est une femme du paradis. En tout cas, pour Zayd, ça, c'est une femme du paradis. Moi, je vais entrer au paradis, donc je vais aller au-delà de mes critères. Ce n'est pas facile, et moi, je rajouterais même que si on n'est pas sûr d'aller au-delà de ses critères, il faut pas le faire, parce que sinon, tu rentres dans un mariage en étant très malheureux, pensant que tu vas assumer d'avoir enlevé ce critère-là, et tu assumes pas. Et donc, tu rends aussi l'autre personne malheureuse. Il faut faire très, très, très attention. Mais qu'en tout cas, il faut s'entraîner à se dire, est-ce que je peux l'enlever ou pas, ce critère? Au moins, s'entraîner jusqu'à, Inch'Allah, peut-être y parvenir avant de rentrer dans le mariage. Qu'en penses-tu?
Je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense, ça, c'est par expérience, que les critères que chaque personne a pour se marier, avec le temps, ils vont forcément diminuer. Puisqu'avec le temps, on se rend compte que on a moins de facilité à se marier et qu'on est obligé de revoir ses critères. En fait, fait des concessions. On est obligé de faire des concessions.
Tout à fait.
Et quand on avance dans l'âge, l'une des premières concessions qui est mise de côté, c'est le critère physique. puisque forcément nous-mêmes, comme on prend de l'âge, le physique n'est plus comme avant, et on le met de côté. Et la sagesse prend le dessus, parce que c'est pas tout. Le physique, il est là un temps, hein, mais dans 30 ans, le physique, il sera plus là, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce que la personne, elle a au fond d'elle, ses mœurs, sa religiosité, c'est ça qui va rester. Alors je dis pas qu'il faut enlever ce critère-là. Bien sûr, il est important pour, comme tu l'as dit, on soit à l'aise, etc. Mais ce critère-là, en vérité, c'est un critère qui est conditionné par le temps. Puisque plus le temps il passe, plus ce critère il va s'effacer pour laisser place à d'autres critères plus importants. Alors, concernant les enseignements de ce mariage, le dernier enseignement, c'était celui-là, Madina, c'est se marier avec une personne proche de notre entourage peut favoriser l'entente. Je dis bien peu. Je dis pas que c'est une règle dans l'absolu, mais très souvent, se marier avec une personne de notre entourage favorise l'entente. Et là, je parle même pas, alors, je prends comme preuve le mariage de Zaïd et de Baraka, mais dans mon expérience personnelle, tu sais, dans ma famille, moi je suis originaire d'Algérie, je prends tous mes oncles, tous mes grands cousins, ils sont mariés avec des cousines, tu vois, des cousines voilà, qui habitaient au village à côté et tout, parfois ils ont même le même nom de famille. Je jure par Allah, il n'y a jamais eu de divorce chez eux. Alors que mes autres cousins qui se sont mariés peut-être avec des personnes plus éloignées, etc., ils ont connu des divorces. Mais je jure par Allah que tous ceux qui m'ont précédé avant et qui avaient ce mariage-là, c'était comme ça qu'ils faisaient à l'époque, hein, il n'y a jamais eu de divorce. Donc, comme enseignement, hein, j'avance cela sans pour autant dire que c'est une règle absolue, mais se marier avec une personne proche de notre entourage peut favoriser l'entente dans le mariage.
Absolument. Parce qu'en fait, je pense que ça apporte ça apporte de la confiance, ça apporte de la retenue aussi. C'est-à-dire que, parce que nous, dans nos cultures peules, ça se fait beaucoup, ça s'est fait et ça se fait encore. Et en fait, ces mariages-là où les gens sont proches, ça crée de la retenue parce qu'en fait, tout d'un coup, la belle-mère est votre tante. Donc en fait, on va pas commencer à se monter la tête trop vite non plus, parce que derrière, faut assumer auprès de sa tante ou de son oncle. Et quelque part, ça donne une espèce de retenue qui aide, je pense, même si ça fait pas tout, hein. Je pense que ça peut aider à se dire, alors attends, avant que je m'énerve là trop rapidement, faut que je me rappelle quand même tous les liens qu'il y a entre nous. Et ça peut aider à au moins prendre du recul. Faut pas se dire, ah ben, dès lors où j'entre un match comme ça, je suis coincée, je pourrais jamais me séparer, même si je vis une vie de souffrance et difficile. Mais en tout cas, ça peut aider à avoir de la retenue, ça peut aider à avoir de la rahma. Et puis, si en tout cas les liens familiaux qui vous précèdent sont bons, ça peut aider à vouloir les préserver, à vouloir continuer que ces liens-là perdurent dans le temps. Allahu a'lam.
Oui, non, je pense aussi cela. C'est vrai qu'il y a une sorte de pudeur justement qui vient s'instaurer vis-à-vis de la proximité de la famille. Tout à fait.
Tout à fait.
Donc voilà, hein, j'ai présenté ces deux mariages qui sont totalement différents entre Zaïd et Zaïneb et Zaïd avec Baraka Oum Aïmen. Deux mariages totalement différents. J'en viens maintenant à ma conclusion de tout cela. Et on pourra en discuter d'ailleurs, Madina. Je pense que la plupart des divorces, de manière générale, ils sont pas dus à une incompatibilité. Non. Ils sont plutôt dus à une méconnaissance de soi. On se connaît pas soi-même. Et quand on se connaît pas soi-même, très souvent, c'est qu'on a un manquement concernant la religiosité, je dis bien un manquement dans la religiosité, qui est ce qu'on appelle la muhasaba, c'est-à-dire la remise en question, qui est une chose fondamentale, à laquelle Allah Azza wa Jalla nous enjoint dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa la tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Oh, vous qui avez la foi, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. C'est-à-dire faire les comptes, une introspection. Ça permet de mieux se connaître. Et plus la connaissance de soi elle est grande, plus nos critères concernant notre futur conjoint ils vont être précis. Et là, je soulignais, encadrais, mettez-le en rouge, des critères qui sont précis. Et je le rappelle, les critères doivent être précis et non trop nombreux. Il ne faut pas que les critères ils soient trop nombreux. Précis, mais pas trop nombreux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de couples ayant une incompatibilité tant au niveau de l'âge, tant au niveau social, qui ont une vie de couple épanouie. N'est-ce pas, Madina? Si on prend le prophète sur Sam et Khadija, c'est le meilleur des exemples. C'est le couple le plus équilibré, le plus magnifique. Eh bien, pourtant, il y avait une sorte d'incompatibilité. Quand ils se sont mariés, lui, il était un tout jeune homme, jamais marié. Et elle, elle était une femme mûre, qui était déjà veuve deux fois. Quand ils se sont mariés, lui, c'était un modeste berger, qui avait du mal à gagner sa vie. Et elle, c'était une richissime commerçante. Ben cependant, malgré une opposition flagrante dans la forme, ils ont vécu une unité transcendante dans le fond. Donc voilà pourquoi la compatibilité dans un couple, elle doit être recherchée afin que le mode de vie ne soit pas excessivement différent entre les deux conjoints, mais ce n'est pas forcément la finalité en soi.
Vraiment, si tu me permets, j'aimerais vraiment rebondir parce que c'est très drôle quand tu as dit en termes d'incompatibilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radhiyallahu anha, je n'ai aucune objectivité concernant cette histoire d'amour qui est ma préférée évidemment. Donc quand tu as dit ça, je me suis dit mais comment ça ils sont pas compatibles? C'est-à-dire qu'en réalité, je t'assure Farid, j'avais même oublié leur différence tant dans leurs valeurs. Ils sont semblables. C'est-à-dire que pour moi, Khadija, c'est oh, quelle femme. Mais vraiment, de toute façon, à chaque fois que j'en parle, je m'emballe, je parle fort, je sature le micro. Donc à chaque fois, il faut que je redescende un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, subhanallah, pour moi, sur le papier, en fait, ils sont différents. Mais en réalité, il n'y avait pas de meilleure personne pour accompagner le prophète sallam, en tout cas dans cette partie-là de sa vie, que notre magnifique maman à tous, Khadija radhiyallahu anha. Et ça me fait dire une deuxième chose, c'est que quand on recherche quelqu'un, et vraiment, moi, ça a été vraiment mon histoire, quand on cherche la compatibilité, on cherche une compatibilité un peu sur parfois la religiosité, évidemment, mais parfois les études, l'humour, l'histoire. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je me sentais très proche des personnes issues de l'immigration. Parce que pour moi, ça me représente beaucoup dans mon identité, dans qui je suis, dans mon quotidien, quelque part. Il s'avère que je n'ai pas épousé quelqu'un qui est issu de l'immigration, mais en fait, les valeurs qui nous ont rapprochés, elles sont autres. Et en fait, quelque part, c'est très difficile à faire, mais quand on travaille nos critères en tant que célibataire, il faut être capable de se dire, on a des critères qui sont liés à notre personnalité, et on a des critères qui sont liés à qui nous sommes profondément. C'est-à-dire que peut-être que c'est bien d'avoir une personne qui est issue d'immigration comme vous, mais l'important c'est peut-être aussi de chercher quelqu'un qui est hypersensible comme vous, parce que quand vous allez avoir une hypersensibilité qui va se déclencher, il va pas vous dire pourquoi tu réagis comme ça, franchement c'est lourd, il va accueillir en fait votre réaction. Et au fil des années, c'est peut-être plus ça qui va vous définir que mes parents sont nés au Sénégal et toi t'es né au Maroc ou que sais-je en fait. Donc pour moi c'est très important de le dire parce que ce déplacement de critères m'a été utile. Encore une fois, Allahu a'lam, je dis pas qu'il faut faire ce que moi j'ai fait, mais je pense profondément que quand on est célibataire, la compatibilité, on a du mal à la jauger, on la jauge sur des choses qui sont certes importantes, mais qui peut-être sur le long terme ne sont pas les plus importantes.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut un minimum, oui, de compatibilité. Ce minimum de compatibilité, c'est la religiosité,
oui.
C'est la foi, c'est les bonnes mœurs, les valeurs. Pour le reste, il y aura toujours moyen pour ce voilà. Voilà les valeurs. Après, pour ce qui est de tout ce qui concerne l'aspect mondain, à partir de là, on va être capable, effectivement, de faire des concessions. Et le cas échéant, il faudra d'ailleurs les faire.
Mmh. Et tout à fait. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais de concessions, de faire des compromis. Ça, c'est pareil. Ça me tient à cœur de le repréciser parce que en anglais, on dit to settle down. Ah oui, mais I don't want to settle down. Settle down, ça veut dire je veux pas avoir mes critères à la baisse. Et en fait, on pourrait croire quand on fait des concessions, des compromis, ah bah d'accord, t'as settle down, quoi. T'as revu tes critères à la baisse. Moi, je pense qu'il faut vraiment comprendre quelque chose. Et je pense que toi et moi, Farid, on le pense sincèrement. C'est pas revoir ses critères à la baisse, c'est être réaliste, s'inscrire dans le réel, inscrire sa recherche, son mariage dans le réel. C'est ça, en fait, être dans le compromis, se dire, là, je veux un mari ou je veux une épouse pour la vraie vie. Et donc, dans la vraie vie, j'aurai pas tout ce que je veux. Mais la vraie vie, de toute façon, on n'a jamais tout ce qu'on veut et ça ne nous empêche pas de vivre. Ça ne nous empêche pas d'avancer.
C'est, tu sais, la paix intérieure, l'apaisement, la sérénité, elle passe toujours par des concessions. C'est en contradiction avec ce que nous, on a à l'esprit. Nous, on a à l'esprit que pour être heureux, pour être apaisé intérieurement, il faut qu'on ait tout ce qu'on veut. Non. Justement, pour être épanoui, pour connaître la sérénité, eh bien, il faut passer par des concessions. D'ailleurs, le but du mariage, c'est quoi? C'est de trouver la sérénité. Allah, il dit, parlons du verset du mariage, « Li taskunu ilayha ». Li, la particule « li », qui veut dire un objectif à atteindre. L'objectif du mariage, c'est d'arriver à la paix, à la sérénité. Et la paix et la sérénité, elles passent par des concessions. Et la preuve de cela, Madina, c'est que le prophète, sallam, quand il a fait le pacte de Hudaybiyah, quand il a fait le pacte, il a fait des concessions. C'est-à-dire, il a laissé Quraysh prendre ceci et prendre cela.
Et des belles concessions, des concessions qui, jusqu'à présent, lui font beaucoup de mal. Hein. Tout à fait, oui.
Hein? Et les compagnons, ils ont dit, mais c'est inadmissible. C'était la première fois qu'ils ont commencé à quelque peu se rebiffer contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un visionnaire. Et dans sa sagesse, il voit loin. Et pour voir loin, il faut faire des concessions. Ces concessions qu'il a faites, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les concessions qu'il a faites lors du pacte de Hudaybiyah, c'était pour arriver à un moment de paix de 10 ans. Ce moment de paix de 10 ans, il a permis de faire la da'wah en toute tranquillité dans l'Arabie. Grâce à cette paix de 10 ans, basée sur des concessions, la quasi-totalité des tribus arabes ont embrassé l'islam. Voilà. Voilà la concession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sur le papier, on se dit, ah, il est perdant. Il a fait n'importe quoi. Mais sur le long terme, on voit qu'en fait, il voyait loin. Et par ses concessions, il a pu amener cette sérénité, cette paix à l'intérieur de la péninsule arabique. Comme nous, dans notre mariage, si on fait des concessions, etc., on va trouver la sérénité et la paix dans le couple, Inch'Allah.
Inch'Allah. Est-ce que je peux te poser, moi, de mon côté, j'ai une dernière question, Farid, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue hier en regardant encore des informations pour préparer notre conversation. C'est que, en fait, en recherchant des informations, encore une fois, sur Baraka ou même sur d'autres personnes, en fait, je trouvais que dans les biographies de nos illustres prédécesseurs, mais encore une fois, moi, je les ai lus en français, donc peut-être que ce que je dis, c'est complètement centré sur nos ressources francophones. Mais en fait, je trouvais que ça parlait peu d'amour. Et en fait, quelque part, même là, quand on a discuté, on a peu parlé du sentiment amoureux. On a dit c'était un beau mariage. Ils se sont bien entendus. Et même quand Zeynep et Zayd ont divorcé, tu vois, t'as dit ça, c'est, ils avaient des divergences, mais on n'est pas rentré dedans. Ma question, c'est en fait, parfois, j'ai pu avoir l'impression que quand on entend les histoires des compagnons, on est beaucoup sur c'est une illustre personne parce qu'il a fait ça, il a fait ça, donc beaucoup dans les actions, beaucoup dans le comportement. Mais les histoires d'amour, elles sont pas beaucoup détaillées. Est-ce que c'est parce qu'on doit faire le deuil de l'amour en tant qu'élément central de nos mariages? Ou est-ce que, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas assez de ressources en français? J'aimerais vraiment comprendre parce que ça m'a fait quelque chose. Parce que, encore une fois, Zayd et Umaymen se sont mariés pendant longtemps. C'est un mariage qui a quand même fonctionné. Il y a eu une descendance, il y a eu de la paix dans leur mariage. Et moi, quand j'ai lu la biographie de Umaymen, c'était vraiment même pas une ligne et demie. Et en fait, elle s'est mariée avec Zayd. Voilà. Et donc, sinon, c'était une super personne. C'était la nourrice du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très bien. Mais du coup, je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire que vraiment, on doit changer notre vision de l'amour et se dire que, en fait, être un bon musulman ou un bon mariage, c'est d'abord un bon comportement, c'est d'abord des bonnes actions avant le sentiment amoureux? Je ne sais pas.
Masha'Allah, Madina. Masha'Allah. C'est quoi le sentiment amoureux? C'est ça aussi la question. Hein, c'est quoi le sentiment amoureux? Le sentiment amoureux, est-ce que c'est ce que certains veulent nous faire croire, une pulsion qui est dans le corps, qui va créer des réactions chimiques et physiques en nous, un cœur qui bat, la tête qui tourne, ça peut même atteindre l'esprit. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est ce que certains disent. Mais chez les Arabes, l'amour, c'est pas ça. Ça, ils l'appellent autrement, ça, ce que nous on décrit. Parfois, certains, ils appellent ça khulla. Khulla, c'est-à-dire une passion qui peut te faire perdre la raison. Mais l'amour chez les Arabes, c'est quelque chose, en fait, qui vient sur le long terme. C'est pas comme un coup de foudre. Un coup de foudre, d'ailleurs, ça porte bien le nom. La foudre, elle frappe, elle disparaît. Tu retrouves plus après la foudre. Mmh. C'est un coup. C'est parti. Chez les Arabes, l'amour, c'est quelque chose qui est récolté bien plus tard. Ça vient pas tout de suite. C'est pourquoi ils utilisent un terme. Hab. Hab, en arabe, ils l'utilisent pour deux choses. Ils l'utilisent pour la graine et ils l'utilisent pour l'amour. Puisque la graine, quand on la met dans le sol, pour qu'elle puisse donner des fruits, il va falloir en prendre soin. Il va falloir faire des efforts, des sacrifices, des concessions, passer par toutes les saisons. Et après, on va récolter les fruits. Eh bien, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est quand on est avec quelqu'un, qu'on supporte ses défauts, on supporte ses faiblesses, on supporte ses manquements, on supporte ses mauvaises humeurs, on vit ensemble des phases difficiles, on surmonte des épreuves ensemble, et puis au fur et à mesure que le temps il avance, on commence à savourer. Il y a un goût qui vient, bah c'est ça l'amour. Et l'amour, c'est un goût en fait qui est évolutif, intensif, il s'intensifie avec le temps. Mais c'est pas quelque chose qui est lié à ce que nous on appelle le coup de foudre, comme tu dis. Et c'est pour ça, les Arabes, très souvent, ils ne parlent pas de ça. Et tu sais, Omar ibn al-Khattab, quand il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit, je veux divorcer de ma femme parce que j'ai pas l'amour, comme ça, il a dit. J'ai pas le sentiment d'amour. Et Omar lui a dit, parce que tu crois que les foyers sont fondés sur le sentiment d'amour? Et qu'est-ce que tu fais de la fidélité, de la responsabilité, de la loyauté, de la compassion et de la patience? Alors là, ce qu'il lui a dit. C'est sur ça qu'est fondé le foyer. Et s'il est fondé sur ça, on récoltera le fruit, parce que l'amour c'est un fruit, on le récoltera après. C'est comme dans notre cheminement avec Allah. Tous les maîtres spirituels s'accordent à dire que la dernière station à atteindre, c'est l'hub, c'est l'amour. T'as pas l'amour d'Allah tout de suite, il faut que tu fasses des sacrifices, que tu patientes, et à la fin tu récolteras ce fruit exquis, qui est l'amour. Allahu a'lam.
Allahu a'lam. C'était grande source de méditation, je vais pas rebondir parce que franchement c'était trop profond pour être gâché par des réflexions qui sont pas encore soutenues par du temps. Et je pense que je prendrai le temps de réécouter et de méditer dessus et de garder les pensées pour moi. Mais je te remercie vraiment beaucoup Farid parce que tu as dit quelque chose qui est crucial encore une fois pour des personnes qui vont se marier en Allah. C'est-à-dire des personnes qui vont faire des concessions, des compromis. Moi, ce que j'aimerais dire et ce que j'ai pas beaucoup entendu avant d'entrer dans le mariage, c'est que quand tu te maries avec cette intention-là, effectivement, t'es en train de construire une grosse bâtisse. Donc en fait, ta grosse bâtisse, et ça c'est une amie qui me disait ça, t'es pas en train de construire un meuble Ikea, super, ça va vite, c'est génial, mais en quelques années, c'est fichu quoi. Et elle a raison. Là, on est en train de construire une bâtisse et en fait, sincèrement, on va devoir porter les pierres une par une. Et parfois, on va sentir le poids de la pierre quand on la porte, hein. Mais on va les poser. Inch'Allah, à la fin, on aura notre belle maison. Et peut-être même qu'en fait, on est en train de construire sa maison pour le paradis, en fait. Donc, une fois qu'on rentrera dans cette maison-là, on se dira, oh, on y est bien, en fait. Ça valait vraiment la peine de porter ces pierres-là. Mais je pense qu'il faut le rappeler. Et tu l'as très bien dit, l'amour, c'est un fruit. L'amour, c'est un fruit. Et le hub, c'est la graine, en fait. Donc, on doit, les premières années, ça sert à planter. Donc, il faut être patient. Allahu a'lam.
Oui, oui. Et aussi, ce que tu disais, je l'entends bien, en fait. C'est aussi, les marques d'affection. On trouve pas beaucoup de mentions concernant les marques d'affection. C'est vrai.
Exactement,
parce
tout à fait.
Parce qu'au-delà les marques d'affection, dire à l'autre « je t'aime », etc. Ça fait partie de la vie de couple, mais c'est pas la chose la plus essentielle. La chose la plus essentielle, c'est dans la pratique, c'est par les actes. C'est vraiment par les actes qu'on va prouver notre amour. Je te donne un exemple sur deux choses qui sont rapportées. Et tu sais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de la révélation. Dans les deux choses que je vais te rapporter, il y a une chose, elle est authentique. Il y a une chose, on l'a entendu dire, mais on peut pas vérifier si c'est vrai ou pas. Elles appartiennent à la même personne. Et tu vas voir que Allah Azza wa Jalla, il a donné la préférence à authentifier une chose, la rendre vraie et véridique, et une chose, Allah, il l'a laissée en suspens. La première chose qui est en suspens, on dit que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a, en rentrant chez lui, il a trouvé une serviette humide. Et il avait trouvé Fatima avec les cheveux mouillés. Et il lui a dit, Oh, que j'aurais aimé être cette serviette. Elle lui a dit pourquoi. Il lui dit pour pouvoir éponger toutes les gouttes qui sont tombées de tes cheveux. Oh, c'est beau, hein. Ouais, Hollywood, oui. Bollywood, ça fait rêver, ça.
Complètement.
Mais ça, c'est pas authentique. C'est, on la rapporte, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Peut-être. Mais Allah n'a pas mis l'accent sur ça. Par contre, quand Ali ibn Abi Talib, il dort à la mosquée, le prophète Hassan, il va chez lui, il le trouve pas, il le cherche. Il voit Fatima, il lui dit, où Ali? Bien, c'est disputé, il est sorti. Le prophète Sam, il va à la mosquée, il trouve Ali qui dort à la mosquée par terre. Et il va lui dire en rigolant, oh Abba Turab, le père de la terre. Hein, c'est un surnom pour rigoler, parce qu'il avait plein de poussière. Allah, il a voulu immortaliser ce moment-là dans la révélation.
C'est magnifique.
Des hadiths. Et c'est authentique. Parce que c'est ça, la vie de couple. C'est ça vraiment qui va donner l'amour. C'est ces petits moments-là. Tu sais, ces moments où on se prend la tête, et puis on va revenir se réconcilier. On est allé au-delà de nos égos, au-delà de ce qui nous a mécontentés, et on apprend de cela, et on grandit ensemble dans notre amour de couple. Le véritable amour, c'est celui-là. Bien que, je leur ai dit, attention, bien sûr, les marques d'affection sont importantes.
Ah, c'est une très belle conclusion, en tout cas sur ce sujet-là, mashallah. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaitais rajouter, nous apporter, mon cher frère Farid?
Alors pas spécialement parce que je pense qu'on a bien fait le tour. D'ailleurs, je te remercie pour ton invitation, pour ton investissement concernant le tout ce qui tourne autour de du mariage, de la vie de couple, parce que c'est le mal du siècle aujourd'hui, tout ce qui touche au couple, que ce soit pour accéder au couple, se marier. Oui. Ou que ce soit pendant le couple avec les tensions, les divorces qui existent. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction dans tout ce que tu fais. Mais il y a quelque chose qui ressort de notre entretien. J'encourage chaque auditeur à faire l'effort de plonger dans la biographie des hommes et des femmes pieux qui nous ont précédés. Ça va faire grandir en nous la foi et l'envie de pratiquer les œuvres de bien, Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci beaucoup, Farid. Je me suis délectée de ces histoires et je vais pas rebondir plus parce que tu as vraiment tout dit. Je pense que si on recherche à la fois et l'amour et l'exemplarité et le paradis, quoi de mieux que de regarder à chaque fois dans les histoires de nos pieux prédécesseurs. Et vraiment, je demande sincèrement à la Sainte Allah de te récompenser, mon cher frère Farid, pour le travail incroyable que tu fais, parce que tu l'as dit, on a très peu de ressources en français. Et je pense que c'est un manque, c'est un vrai manque. Moi, parfois, j'aimerais faire des émissions où je reprends des passages et des biographies de nos compagnons, mais j'ai peu de ressources. Alors du coup, je me sens pas suffisamment légitime pour pouvoir aller au bout de ces recherches-là. Et vraiment, je le précise, je dis pas ça pour te faire rougir, mais à chaque fois que je te propose, tu y vas avec beaucoup d'entrain, de sérieux, vraiment, messieurs dames, on est sur un invité qui est d'une qui est d'un sérieux, machallah, qui prépare nos conversations comme rarement. Donc vraiment, je demande à Swatala qu'il te récompense de la meilleure des manières au pluriel. Je demande qu'il préserve ta famille, tes enfants, et que tu puisses encore nous délecter des belles histoires. Oui, je l'avoue, j'espère pouvoir encore te recevoir au micro. Pardon de te solliciter à nouveau, mais c'est tellement tellement intéressant, tellement passionnant que je me dois de te tendre une dernière perche.
Inch'Allah, sera toujours avec plaisir, Madina. Tu peux compter sur moi, Inch'Allah.
Alhamdulillah. À très bientôt, alors, mon cher frère Farid.
À bientôt, Madina. Prends soin de toi. Assalamu alaikum.
Amanillah. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.